histoire et conte.
Les marchands de Lille. Autrefois, les quelques touristes avertis débarqués au petit jour exploraient durant la matinée le village principal, saupoudrage de rectangles blancs à demi ruinés, grillaient un moment sur les rares plages de galets et de sable noir, se trempaient deux à trois fois dans l'eau transparente dont le fond s'enfuyait rapidement vers le large, puis commençaient l'ascension en fin d'après-midi lorsque les rayons du soleil s'affaiblissaient. Il parvenait à la nuit au sommet, sorte de dôme désertique recouvert de cendres, avant-goût de l'Hadès. La plupart s'installaient sur le Pizzo, observant le bouquet rougeoyant des éruptions, prenant photo sur photo, puis dormant par à-coups au gré de l'humeur des cratères. Ils repartaient par le bateau du soir, emplis de respect pour une nature primitive qui les dépassait. L'île était devenue à la mode. La dernière grande éruption qui avait chassé la plupart des habitants terrorisés appartenait désormais à la génération précédente. De toute l'Europe, on rachetait des tas de pierres qu'on remontait petit à petit. Des scandales éclatèrent. Alberto séjourna quelques mois en prison pour avoir vendu des bâtisses ayant appartenu à des émigrés dont les descendants revenaient un à un. Des hôtels, des pensions de famille et des restaurants poussaient parmi les champs de citronniers et de capriers. Certains furent démolis, faute de permis de construire. D'autres s'aventuraient dangereusement sur les pentes habillées de roseaux de l'île. Des guides harponnaient les touristes à leur descente de bateau, leur vendant des tickets présentés comme obligatoires pour la montée au cratère. Celle-ci s'effectuait le soir au pas de course et on pouvait suivre, depuis l'observatoire vulcanologique, les serpents de lampes électriques qui ondulaient sur le flanc du volcan, se distendant progressivement. Au sommet, les visiteurs avaient droit à un pique-nique rapide, le temps d'observer quatre ou cinq éruptions et de nourrir les nombreux rats qui prospéraient alentour. Les guides faisaient redescendre leurs clients vers minuit et, prétextant que certaines zones étaient exposées à des chutes de pierres, les forçaient à courir. Il y eut des accidents, des chevilles foulées, des bras cassés. Des boutiques de souvenirs avaient fleuri çà et là, exposant des t-shirts ornés de dessins stylisés du site, proposant des cendriers décorés d'un volcan coiffé de son panache et des porte-clés de l'île. Jadis si calme, le village principal était maintenant parcouru de triporteurs klaxonnant et pétaradant dans les ruelles blanches, rayant les murs de griffures parallèles et se livrant toute la journée à des allées et venues mystérieuses, mais apparemment indispensables. Roland étudiait le volcan depuis bientôt 10 ans par courte mission. Il en possédait l'histoire, le souffle, la respiration et pouvait réciter la liste de ses périodes de repos ou d'activité intense. Les sites à végétaux fossiles, vestiges d'anciennes éruptions cataclysmiques, lui avaient confié leurs secrets. Il avait décrypté la présence de lahars, de déferlantes et de dikes. Les discordances dans l'empilement des couches lui avaient révélé les différentes phases de la construction du cône par explosion et effondrement successifs. L'île était en fait une matrioshka de cratères emboîtés. Il avait aussi repéré la présence de nombreuses bouches annexes sur les flancs du volcan, bouches aujourd'hui muettes sur lesquelles on marchait sans le savoir. Un soir, alors qu'il commençait à s'endormir, des coups sourds et réguliers le tirèrent brusquement de ses premiers rêves. Sortant précipitamment, il pensa à une série d'explosions inhabituelles. Mais l'air était immobile. Un croissant de lune éclairait faiblement l'arête sombre de la montagne qui ressemblait à un être colossal enveloppé de sa cape. Jupiter brillait dans la constellation du Cygne. Une légère volute s'élevait du sommet, suggérant une tête de géant. Tout autour, on devinait la mer aux reflets argentés qui vibraient comme des lucioles. Toutes les forces de la nature étaient au repos. En contrebas, dans ce qui devait être une pension de famille récemment reconstruite, sous un toit de canis mal tendu, clignotaient des lampes de toutes les couleurs, comme à Broadway, et des baffles hurlaient du Cisco. Alberto a réussi à ouvrir sa boîte, résuma Anna, sa compagne. Dans le mois qui suivit, et malgré les plaintes, le dancing d'Alberto attira toute une faune des îles voisines qui hantait en fin d'après-midi les ruelles ombragées d'hibiscus et de bougainvilliers. On en retrouvait certains, abrutis par ce qu'ils fumaient, affalés en travers de la voie, obligeant les passants à les enjamber et les triporteurs à rugir. D'autres, presque agressifs, distribuaient des prospectus pour la discothèque et son ciné-club. Il n'y a plus qu'à raser le volcan, conclut Anna. Quelque temps plus tard, l'observatoire enregistra une série de micro-séismes dont les hypocentres se rapprochaient de la surface. Une montée de lave importante avait lieu. Avec leurs collègues, ils firent le tour des boutiques, des hôtels et des restaurants, placardèrent des avis sur les petites places des deux villages et alertèrent les guides et les carabiniers. « C'est un coup des géologues pour nous éliminer », déclara Aldo, le chef des guides. « Ça fait 20 ans que j'habite ici et les éruptions n'ont jamais dépassé le Pizzo. » Avec Anna, ses collègues et une cinquantaine de personnes, ils partirent avec l'aéroglisseur de midi pour l'île voisine. Le lendemain, l'explosion les surprit au moment du déjeuner. Un panache cendreux s'éleva en champignons jusqu'à 10 km de haut, obscurcissant partiellement le ciel. On raconta ensuite que l'île s'était soulevée d'un mètre avant de retomber, ébranlant ou détruisant toutes les constructions récentes bâties à la hâte sur les pentes instables. La mer s'était en fait retirée avant qu'une énorme vague ne vienne balayer les côtes, ce qui avait pu donner l'illusion d'une remontée de l'île. Un bloc énorme qui obstruait la cheminée tomba sur le bureau d'Alberto, écrasant ses enceintes et éparpillant ses réserves de haschich. Le feu s'était propagé dans le village principal, mettant à mal les étalages des boutiques. Des porte-clés contorsionnés sous la chaleur et des t-shirts calcinés furent découverts au milieu des décombres. On vit, paraît-il, une colonne de rats se jeter à la mer derrière une coulée de cendres brûlantes et périr ébouillantés. De retour dans l'île, quelques jours plus tard, Roland et Anna furent accueillis par les seuls autochtones véritables, préparés par la tradition orale aux colères subites de Vulcain. Un nouveau cycle recommençait. Il fallut 5 ans au moins avant que les premiers triporteurs ne réapparaissent. Thank you.